Les cours du Collège de France, Louis Fensterbank, chaire Activation en chimie moléculaire.
Bonjour à tous, on va commencer. Donc session 5 de ce cours consacré aux espèces réactives et intermédiaires. Aujourd'hui on va parler un petit peu plus de photochimie et de donc, comment engendrer des espèces réactives avec la photochimie. Vous verrez quand même qu'il y a pas mal d'activation thermique en parallèle. Et puis, mon intervention sera suivie d'un séminaire du professeur Jean-Philippe Godard, qui lui va nous parler de photocatalyse et de photochimie dans des conditions particulièrement douces, puisque en utilisant notamment de la lumière rouge, donc infrared light. Et donc, il va nous parler de cette application, de ce rayonnement qui est assez émergent et pour lequel son labo a été particulièrement contributif récemment. Donc, la photochimie, évidemment, on connaît, je n'ai pas besoin de réexpliquer grand-chose. Juste ce qui est important, c'est quel photon on utilise. Et justement, aujourd'hui, c'est bien parce qu'on va montrer qu'on utilise un petit peu, on peut utiliser encore de l'UV assez fort pour faire de la photochimie, avec évidemment toutes les limitations que ça peut avoir. Ou on peut aller à du rayonnement beaucoup moins énergétique, qui est donc le rayonnement infrarouge, je dirais infrared. Et donc, on va en fait balayer un petit peu tous ces rayonnements, puisqu'on aura aussi pas mal de blue light au milieu, vers les 400 et quelques nanomètres. Donc effectivement, ce qui est intéressant avec la photochimie, c'est que globalement, on engendre des espèces réactives très facilement. Et on peut aussi avoir des réactions qui ne se font pas sous contrôle thermodynamique, mais où on engendre des espèces qui réagissent purement, on va dire, de façon cinétique. Et donc, on peut avoir des sélectivités qu'on n'obtient pas quand on fait, par exemple, de la chimie thermique. Mais on peut aussi avoir des sous-produits, puisque globalement, puisqu'on balance une certaine énergie et qu'on arrive à des intermédiaires hautement réactifs, on peut évidemment avoir des problèmes de sélectivité, même si globalement l'évolution de cette méthode photochimique montre qu'en fait on catalyse de mieux en mieux les réactivités. L'intérêt aussi, c'est qu'on peut faire des molécules de façon très spécifique et qu'on a du mal à faire autrement que par voie photochimique, par exemple des cyclobutanes, des cyclopropanes. Je vais vous montrer différents accès, notamment au cyclobutane, de façon assez intéressante aujourd'hui. Alors, initialement, il y avait beaucoup de prérequis pour faire de la photochimie. Il fallait des lampes particulières, de la verrerie spéciale qui laissait passer des rayonnements, donc notamment la verrerie en quartz très chère. Mais comme on va vers des rayonnements qui sont beaucoup plus pénétrants, tout ça, on est en train de s'en affranchir. Ce qui est important quand même, c'est d'avoir une bonne idée de ce qu'on va irradier. Donc généralement, on va précéder les expériences de photochimie par la détermination d'un lambda max. Et je vous rappelle le cours de Ludovic Julien de l'année dernière, qui s'appelait « Bien réagir avec la lumière » et donc qui revenait sur cette loi de Bert-Lambert notamment, et toutes ces limitations et toutes les difficultés finalement d'avoir des photons dans un milieu réactionnel. Donc c'était le premier séminaire du cours de l'année dernière. Bon, les transitions électroniques, c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'évidemment, il y en a de plusieurs types, donc des transitions N-pi étoile, pi-pi étoile, N-sigma étoile ou sigma-sigma étoile. On ne va pas beaucoup s'appesantir là-dessus aujourd'hui. Elles sont ici par ordre croissante en termes d'énergie, ça c'est beaucoup plus difficile à faire qu'une transition N-pi étoile. Et donc, beaucoup d'ailleurs des transitions qu'on va utiliser aujourd'hui seront plutôt dans ces domaines de NP étoile ou PP étoile. Il y a des règles de sélection, donc on va rester à spin généralement, sans variation de spin. C'est-à-dire qu'en fait, on engendre un état singulier, on part d'un état fondamental singulier et on engendre généralement un état excité singulier 1. Après des excitations, des vibrations. On avait vu l'année dernière qu'on pouvait quand même faire parfois quelques transitions S0-T1, donc a priori interdites, mais dans le cas d'atomes lourds, ce genre de transition est quand même possible. Et ce qui est important également, c'est qu'on doit conserver pour avoir, on va dire, quelque chose de favorable. On va, ce qui se traduit par un epsilon important, c'est on va rester sur une conservation de la symétrie orbitalaire, donc une transition pi-pi étoile, par exemple, est plus favorable qu'une transition n-pi étoile, en tout cas sera plus intense, et ça se caractérise donc par ce epsilon. Les chromophores, il y en a une grande variété. Il se trouve qu'aujourd'hui, on va beaucoup travailler en fait sur ce NN, par exemple, un petit peu les NO2 aussi, et puis d'autres. Ce qui est intéressant, et ça, on s'en souvient, c'est que quand on a de la conjugaison, le lambda max de photoexcitation va baisser. Ce livre-là est très bien, reprend ça. Le chapitre sur la photochimie est très bien. Il y en a d'autres, vous verrez. J'ai aussi des revues qui sont bien. Il y a le bouquin de Wirtz que j'aurais pu citer là, qui est particulièrement bien aussi. Mais sinon, le cours de l'année dernière, évidemment encore en ligne, contient beaucoup d'éléments là-dessus, discutés par, un, les séances du cours, deux, les séminaires. Et puis, un point qui est relativement important, je vais assez vite parce que ce n'est pas vraiment le propos du cours de revenir là-dessus, mais c'est le fameux diagramme de Jablonski ou Perrin-Jablonski, où globalement, on voit tout le phénomène d'excitation et désexcitation. Puisqu'on parle d'un état fondamental, généralement S0, on va atteindre un état S1, avec voire S2, qui va se désexciter dans les états vibrationnels, donc par conversion interne. Et là, quand on arrive à l'état S1, donc ça c'est un phénomène extrêmement rapide, on a plusieurs possibilités, soit on a de la fluorescence, soit on a de la chimie, transfert d'électrons, transfert d'énergie, soit on a un croisement intersystème pour arriver vers un T2 qui, pareil, va se désexciter ici au niveau vibrationnel, rotationnel, et on arrive à ce triplet 1 qui va pouvoir phosphorescer ou, là aussi, faire de la chimie. Donc, évidemment, ces phénomènes de luminescence, ces phénomènes radiatifs rentrent en concurrence directe aussi avec la chimie, puisque si vous voulez faire un transfert électronique, bah, idéalement, il ne faut pas que vous ayez trop de fluorescence ou trop de phosphorescence. Voilà, donc aujourd'hui plutôt, on va s'intéresser aux générations de radicaux, voire d'iradicaux, par photochimie, selon plusieurs principes. Le premier, c'est, et ça va être beaucoup des liaisons, des clivages de liaisons covalentes, donc clivage homolytique. Donc on peut avoir un substrat qui est muni d'un groupement partant radicalairement, et si on tape sur la bonne longueur d'onde, on peut photoactiver cette liaison qui va donc se casser de façon homolytique et engendrer ces deux radicaux. On peut aussi avoir utilisé les deux composantes ici de... Alors, généralement, la différence entre là et là, c'est que lui, on va un petit peu pas y accorder beaucoup d'importance, mais ici, on peut accorder une valeur synthétique aux deux et faire de la chimie avec les deux. Un très bon moyen d'engendrer, par exemple, deux radicaux comme ça va être, par exemple, d'avoir des composés diazo. Et donc, je vais passer un petit peu de temps là-dessus aujourd'hui. Et puis, j'ai parlé aussi un petit peu de réarrangement photochimique, hein, notamment de la cyclisation de Bergmann. Je pense que je poursuivrai un petit peu cette exploration, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses très intéressantes là-dessus, notamment les implications en chimie médicinale. Et puis, on va faire aussi la formation de carbène, alors assez peu aujourd'hui, mais de nitrène par expulsion de N2. Et comme je vous ai dit, il y a toujours une dualité, c'est-à-dire qu'une bonne partie de cette chimie, on peut la faire, on va dire, par activation thermique ou par activation photochimique. D'une façon générale, et on le voit très bien avec les papiers les plus récents, on est passé des irradiations UV des années 50, 60, jusqu'aux années 80, de plus en plus, soit une photocatalyse, soit des rayonnements beaucoup plus doux. Et donc, ça ira bien. Donc, dans la continuité de cette matinée. Alors, je reviens à une manip qui va nous occuper un petit peu de temps et qui était cette formation de carbazole par Smith, où globalement, quand on prend un azoture comme ça, biaryl, et qu'on le chauffe à 180 degrés ou qu'on l'irradie, on va obtenir ce carbazole avec expulsion de N2. Réaction de 1951. Voilà la référence qui a quand même été vraiment un des jalons importants dans la chimie des nitrènes et notamment des aryl nitrènes. Et ça, c'est très important, puisque si vous êtes en serial kill, cette irradiation ne conduit pas à la formation d'un nitrène, ce réactif, là, ce substrat 2 ne réagit pas. Donc ce qui est vraiment important, c'est d'avoir cet aryl nitrène. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous avez un groupement NO2 en ortho, vous allez pouvoir le faire réagir avec le nitrène et arriver à ces bains sur oxane, qui sont des hétérocycles particulièrement intéressants parce qu'ils sont encore très fonctionnalisés. Donc ces travaux ont été assez pionniers et ils ont beaucoup, attiré l'attention des groupes de chimie physique, puisqu'en fait, on écrit cet intermédiaire nitrène de façon simple comme ça, mais il se passe beaucoup de choses derrière ça. Donc quand on irradie un azoture d'aryl, on passe par un état singulé initialement, donc ça c'est ce qu'on a vu avec le diagramme de Perrin-Jablonski, qui est très fugace, qui a une durée de vie de 1 nanoseconde. Alors cet état singulé aussi, il est ce qu'on appelle open shell, c'est-à-dire qu'en fait on a les deux électrons qui sont en spin opposé, mais qui sont dans deux orbitales différentes. Et ce n'est pas le closed shell où on a les deux électrons en spin opposé, mais dans la même orbitale. Donc c'est assez différent, et vous verrez pourquoi c'est différent. Alors de ce singulier, deux évolutions possibles. Soit il évolue vers l'azyrine, qui elle-même va s'ouvrir pour donner cette kéténimine, que vous verrez parfois appelée dans la littérature kétinine, qui est évidemment un électrophile très fort et qui va pouvoir réagir avec pas mal de nucléophiles. Et donc il y a beaucoup de chimie là-dessus. Ou d'une façon générale, on peut avoir ce croisement intersystème dont j'ai parlé, qui va donner le nitrène triplé, et qui lui, d'une façon générale, semble évoluer beaucoup vers le composé diazène, donc diazo. Alors, donc je vous ai dit, là-dessus, vous avez ce chapitre de livre, par exemple, à Gritsan et Platz, qui fait une centaine de pages, parle de, pendant 60 pages, de toute l'étude photochimique de cette simple espèce. Hein. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de choses, en matrice, en solution, en phase gaz, avec des cinétiques, enfin bref, donc tout ça c'est complet. Travail assez récent là, de Sander, sur lequel je vais revenir, qui confirme tout ce que c'est donné, mais donc notamment cet état singulier vraiment très très court. Et donc, ce qu'il dit bien, c'est que celui-là est un open shell singulé. Oui, alors ce qui est important aussi, c'est qu'il y a une délocalisation assez importante de ce nitrène singulé. Alors, voici donc maintenant, si on regarde l'image un petit peu plus grande encore à la big picture. Donc, les expériences importantes. Huisgen, bien connu pour la 3 plus 2 qui a donné la clique, donc un azoture plus un alcine, avait étudié la photochimie ou l'activation thermique de ces azotures et piégé la fameuse kétimine que je vous ai montrée par des amines pour obtenir ces composés-là. De même, von Döring, article hyper intéressant là, de 1966 qui va être à la source de pas mal d'innovations dont je vais vous parler un petit peu aussi après. Et puis un article assez intéressant de Scriven qui montre que si vous avez comme nucléophile un thiol, vous n'obtenez pas le même produit du tout, vous obtenez cette ortho-aniline, dont le mécanisme en fait de formation reste un petit peu mystérieux, mais serait en fait, en tout cas ce qui est proposé dans la littérature, et je n'en suis pas complètement convaincu malgré tout, c'est que le thiol ne réagirait pas avec le dérivé 51, mais avec cet intermédiaire azyrine, et attaquerait ici. Connaissant quand même la réactivité homolytique des thiols, on peut quand même se demander s'il n'y a pas un autre mécanisme qui est en jeu. Mais ça a été beaucoup utilisé, cette réaction-là de Scriven, pour justifier le passage par cette entité 50. Donc, je récapitule, on irradie l'aryl azoture, on forme un singulé qui est propulsé dans un état singulé mais avec des états vibrationnels, qui va donc se désexciter, et là on obtient le singulé dont je vous ai déjà parlé. Il peut évoluer vers l'azyrine, puis la kétimine, et tout ça peut se faire aussi dans les états excités vibrationnels. De là, plusieurs possibilités. Soit on fait un ISC, un croisement intersystème, on engendre l'état triplé, qui peut dimériser sous forme de diazo, qui peut réagir avec de l'oxygène pour former un nitroso ou un nitrobenzène. Cette espèce-là a un caractère électrophile, elle va pouvoir réagir avec de l'eau, et dans ce cas-là, vous allez obtenir l'ortho-phénol-aniline, pardon, pas ortho, la para-phénol-aniline, donc en deux étapes, en passant a priori par un intermédiaire nitrénium, en tout cas il semble qu'il ait été détecté. Et sinon, donc le schéma dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui reste en nitrène, azirine, kétimine, et piégeage ici, avec une tautomérisation finale pour donner donc le dérivé 48. Ce qui reste quand même une réaction hyper intéressante, puisque globalement on élargit un cycle aromatique. Okay, mais donc on imagine que si on a des substituants ici, on va pouvoir arriver à des systèmes relativement fonctionnalisés. Alors dans tout ce schéma, il y en a un qui est très intéressant, parce qu'en fait il est très différent. C'est que dès que vous mettez des fluores sur votre nitrène ici, ce singulé est un comportement bien plus, à la rigueur, intéressant. Parce qu'on va faire une chimie beaucoup plus productive. Parce que ce qu'il faut voir ici, c'est que ce nitrène, on n'arrive pas à le piéger avec une double liaison, il n'arrive pas à faire vraiment une CH insertion de façon propre. Il est, voilà, ça c'est sa réactivité principale. C'est vraiment le réarrangement vers le cycle A7, mais pas de piégeage. Alors que lui a un état singulé qui est beaucoup plus, avec une durée de vie bien prolongée. Alors c'est dû à plusieurs choses. Du fait que votre position ortho est encombrée, bah l'évolution vers l'azirine n'est pas favorisée. Le changement, l'électronégativité des fluores également lui confère une réactivité complètement différente. Et donc là aussi, on ne passe pas par l'azirine. Donc là aussi, dans ce chapitre, donc, toutes les réactivités répertoriées de ce nitrène sont marquées. Avec des travaux intéressants d'Abramovitch, dont on avait d'ailleurs parlé au cours précédent. Hein, c'est lui le premier, d'après donc, Philippe Daumont, qui nous a dit la semaine dernière, c'était lui qui avait l'iminoiodinane, qui l'avait publié en premier. Banks, aussi des travaux intéressants. Tout ça repris dans ce ChemRev. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est que vous pouvez faire une sulfinylimine, par exemple. Vous pouvez faire une insertion CH dans le cyclohexane ou dans le toluène. Vous pouvez faire une addition sur une oléfine, vous pouvez avoir une addition nucléophile de la pyridine, vous pouvez également avoir une insertion NH, et puis vous avez les évolutions éventuellement qu'on a vues tout à l'heure, donc ça peut quand même évoluer vers le cycle A7, la kétimine ou le triplé, mais donc une chimie beaucoup plus riche. Donc si vous voulez un nitrène qui a une durée de vie relativement importante, c'est plutôt vers celui-là qu'il faut se diriger. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce travail de Sander, la JAX 2018, parce qu'en fait, il propose, lui, carrément, d'isoler ce singulé aryl nitrène en le complexant avec un acide de Lewis. Alors, ce qui est à la fois très intéressant dans cet article et à la fois déconcertant, c'est qu'il ne cite pas du tout la biblio que je viens de vous montrer, de piégeage de cette aryl nitrène. Mais lui, en fait, il ne parle pas non plus exactement du même état singulé. Donc, lui, il va parler de l'état singulé. Celui qui l'intéresse, c'est le closed shell. Hein. Donc, c'est-à-dire celui où, en fait, les deux électrons sont dans la même orbitale. Et dans ce cas-là, ce qu'il dit, c'est que celui-là, comme il a un caractère de base de Lewis bien plus fort, l'idée, c'est de l'intercepter en mettant un acide de Lewis. Donc, si on part, par exemple, si on forme l'état triplé, qui est une évolution possible du singulé, en mettant deux BF3, et il montre tout qu'il en faut deux, on peut arriver à cette espèce ici, qui est globalement détectée en matrice, qui a été modélisée également. Donc là, voilà le cycle aromatique. Ici, voilà les deux BF3. Et donc, on a un complexe acide-base au sens de Lewis. Alors, ça, c'est fait en matrice, donc à quelques Kelvin. Évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce que ça peut être étendu en solution, en phase condensée, quoi. Mais malgré tout, cette étude est relativement intéressante, puisqu'elle prouve qu'on, et probablement on va arriver à d'autres types d'évolutions, qu'on peut quand même manipuler la réactivité de ces nitrènes en jouant sur des complexations des doublés des azotes, notamment. Des choses qui n'est quand même pas pour l'instant très courue dans la biblio. Donc une étude assez complète. Sur ce complexe-là, la complexation de l'azote le fait ressembler vraiment à un nitrénium, hein, donc c'est un azote extrêmement électrophile. Voilà, donc maintenant, comment on peut faire autrement des aryl nitrènes. Et donc, toute une biblio qui est, que moi je ne connaissais absolument pas. Par exemple, cette réaction de Cadogan, j'avoue que quelque chose que j'ai découvert qui est particulièrement intéressant, c'est vous prenez un dérivé nitro, et ça, les dérivés nitro, dans la littérature, il y en a énormément, des dérivés nitro, et vous mettez un phosphite, plutôt qu'une phosphine, vous pouvez mettre a priori une phosphine, plutôt un phosphite, et vous allez engendrer in situ quelque chose qui ressemble fortement à un nitrène, et qui va vous permettre de faire un carbazole. Donc là, sans photochimie, hein, c'est des conditions thermiques qui peuvent être d'ailleurs assez fortes, hein, ça peut être au-dessus de 120-130 degrés. Donc l'idée, c'est que votre phosphore est évidemment très nucléophile, vous allez passer par ce produit d'addition qui va évidemment relarguer du PO triéthoxyphosphore, toujours cette force motrice, mais ça engendre un nitroso in situ. Et ce nitroso lui-même est encore susceptible d'une attaque nucléophile du phosphore, et en mangeant cet intermédiaire qui, là, maintenant, va pouvoir réagir, alors soit sous la forme nitrène libre, soit sous la forme de ce mécanisme. En tout cas, on peut obtenir des carbazoles assez facilement. Et c'est une réaction qui, dont on, en fait, on se rend compte qu'elle est relativement utilisée, qui a contribué beaucoup au succès donc, de John Cadogan, puisqu'il a été même anobli, hein, c'est Sir John Cadogan. Mais bon, il a fait d'autres choses également. Donc la question qui s'est posée dans sa littérature, hein, il a été assez clair, est-ce que je passe par le nitrène ou est-ce que toute la réactivité se fait sous cette forme zitérionique? Selon les papiers, d'ailleurs, il balance un petit peu entre les deux, mais dans le Lackland of Chemical Research, là, d'ailleurs, je ne pense pas. Je ne suis pas sûr que ça soit aussi 2018, ouais. Je doute que ça soit 2018, à mon avis. Mais il est plutôt clairement sur l'idée de... Moi, je pense que là, la référence est fausse. C'est bien Lackland of Chemical Research, mais je pense que les dates ne sont pas bonnes. Il opte vraiment beaucoup plus pour le nitrène. Une réaction intéressante également, c'est que si vous partez de ce substrat avec un soufre, donc la chimie du soufre, c'est toujours une chimie très intéressante, on peut obtenir cette phénothiazine, si on part de ce substrat-là, qui a priori basé sur l'idée d'une simple attaque du nitrène devrait donner le même produit, mais en fait on obtient ce régioisomère. Et donc ça donne quelques indications sur le mécanisme, où globalement il semble qu'on passe par cet intermédiaire spiro, avec ce cycle A5 qui se réarrange pour donner ça, qui ensuite réaromatise et donc donne ce produit-là. Donc ça aussi, ça renforce un petit peu l'idée que c'est un nitrène qui fait le travail ici. Voilà, donc cette réaction de Cadogan était le point de départ de pas mal d'investigations, et notamment d'un travail de Léonori, dont j'avais un petit peu parlé hier, mais qui, remis dans ce contexte, prend son intérêt, c'est comment maintenant engendrer aussi un nitrène de façon très douce à partir d'un dérivé nitro. Donc sans passer avec un équivalent, enfin il a besoin du phosphore, mais sans utiliser une activation thermique très élevée. Et donc ce que Léonori a considéré, c'est que en fait les nitro-arènes, en fait si on fait leur profil, leur spectre UV visible, ils ont une queue dans la région des LED bleues, hein, donc vers 450 nanomètres, ce qui va être suffisant a priori pour les photoexcités. Et l'état qui est obtenu est un triplé. Hein, donc on obtient assez facilement ce triplé du nitro-arène, qui est lui aussi très très bien décrit et qui a été utilisé dans différents contextes. Et là, l'idée qui était intéressante, c'était de se dire que ces oxygènes ici, ces radicaux centrés sur l'oxygène, sont extrêmement électrophiles et donc vont réagir très facilement avec du phosphore. Et donc effectivement, quand il fait réagir avec une phosphine ou un phosphite, il va avoir cette déoxygénation. Alors en deux étapes, hein, il passe par le nitroso, puis il réduit le nitroso. Alors il écrit un intermédiaire comme ça dans l'article, mais en fait ils ont fait des calculs et d'autres mécanismes sont possibles. Mais on arrive à l'état singulé nitrène dont je vous ai parlé précédemment, qui lui, comme vous le savez, est champion pour ce réarrangement en passant par la zirine pour donner cette kétimine. Et donc, il va piéger ça avec des amines. Donc, vous voyez, là, on revient quand même sur des choses qui étaient connues. Mais là où l'innovation est intéressante, c'est d'avoir utilisé ces dérivés, utilisés par Cadogan, mais dans des conditions thermiques, ici, en photochimie, avec des LED bleues. Et donc, on arrive avec ce genre de dérivés, des azépines, qui sont des molécules en chimie médicinale qui n'ont quand même pas été beaucoup... tant explorer que ça. Et donc là, on a un accès, on peut tout de suite avoir il a mis trois substituants ici, mais on peut imaginer d'autres nucléophiles et tout. Donc il y a pas mal de substrats, de scopes dans cet article. Oui, je vois que le 2018, 140, 17720, c'est là, donc il y a eu un copier-coller un peu malheureux. Mais bon, c'est un account Chemical Research des années 70, je crois. Voilà, donc une autre voie pour faire des nitrènes finalement qui est assez intéressante et qui nous ramène à ce fameux Martin, toujours lui, mais là dans ce cas-là avec le Martin sulfurane qui est un agent idéal pour faire des sulfilimines ou sulfinilimines. Donc on prend une aniline, on met ce réactif. Qui est commercial par ailleurs. Donc, pourquoi c'est Martin? Parce que Martin a beaucoup travaillé avec ces alcools, cet alcool ici, bis-trifluoro-phényloxygène, donc tertiaire, qui est un très bon, qui a un ligand très spécifique, très électrophile. Donc ce soufre est lui-même très très électrophile. Et donc on va pouvoir former ces dérivés-là. Qui vont réagir pour donner des carbazoles. Alors, son idée, c'était de faire la catalyse organométallique. C'est une introduction qui est intéressante dans son article, HMI, parce qu'il dit que l'or est un super métal pour faire du transfert de nitrène. Bon, il se trouve que tous les catalyseurs à l'or donnent des résultats très, très modérés. Mais il n'y a pas que l'or qui donne des résultats modérés, le palladium aussi, le zinc aussi, le cuivre, ça ne marche pas du tout, et le rhodium, évidemment, il y a un pic. Okay. Bon, ça, on le sait, les transferts de nitrène avec le rhodium, on le sait depuis la semaine dernière avec Philippe Dauban, ça marche très, très bien. Donc ça, c'était assez logique. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, si on a des dérivés comme ça, la simple irradiation sans métal va permettre également de libérer le nitrène et de faire le carbazole. Et vous voyez, on passe de l'UVA, mais on peut utiliser les LED bleues, ça marche encore mieux, ou même ces lampes fluorescentes. Voilà, mais par contre, il faut les conditions thermiques, elles ne sont pas bonnes, il faut vraiment de la lumière. Et sur ce graphe, HMI s'amusait à comparer la réactivité de l'azoture correspondant avec la sulfinylimine. Et clairement, celle-ci est beaucoup plus réactive, donne un bien meilleur rendement du produit ici. Donc, alors après, au niveau du scope, on peut arriver à des produits de façon assez efficace. La réaction se montre compatible avec des groupements donneurs et attracteurs ici. Notamment, il arrive à former des produits naturels de la famille des closines, donc closine C. Et puis ensuite, il peut encore faire une saponification ici et obtenir cette closine N. Donc, globalement, une entrée vers les carbazoles qui est quand même très, très facile. Alors, une fois qu'on sait ça, on se dit on peut généraliser l'utilisation de ces sulfinylimines pour faire d'autres types de cycles, notamment. Des phénoxazines, ce type de dérivés qui sont intéressants, d'ailleurs qui sont elles-mêmes d'ailleurs des bases de photocatalyseurs, que ce soit ce squelette-là ou c'est un petit peu plus tôt celui-là, il y a des photocatalyseurs basés sur ce type de squelette. Et il se trouve qu'en utilisant donc cette approche, il n'obtient pas du tout ce produit-là, il obtient un produit totalement inattendu qui est cette azépinone. Et globalement, et c'est très général, on n'obtient pratiquement jamais celle-là, et on obtient toujours celle-là. Donc si maintenant on regarde le produit de départ et le produit d'arrivée, qu'est-ce qu'on observe? On observe que globalement, évidemment, on a perdu le sulfure ici, On a gardé globalement ce squelette-là, mais ce noyau aromatique a bougé, a subi une extension et une insertion d'azote. Et puis, globalement aussi, on a a priori peut-être hydraté pour créer ce carbonyle. Et effectivement, si on fait cette réaction avec un petit peu de D2O, enfin 10 équivalents, on observe a priori qu'on a déterré cette position-là et qu'on a introduit du deutérium ici. Et puis si on fait avec de l'eau marquée à l'oxygène 18, on confirme bien que l'oxygène qui est ici et vient bien de l'eau. Donc on sait qu'à un moment ou un autre, on va faire intervenir l'eau comme nucléophile sur notre substrat. Et donc ce qu'il a proposé comme mécanisme, c'est que on fait un intermédiaire carbène qui a priori réagit ici de cette façon et qui va évoluer vers cette forme C. En fait, on ne réaromatise pas pour donner la phénoxazine, mais on a une évolution privilégiée pour aller vers cet intermédiaire qui lui va subir une expansion de cycle et créer cet intermédiaire D qui, en présence d'eau, est très facilement protoné. On a un carbocation ici qui est très stabilisé. Et donc, si on a de l'eau, on va avoir l'attaque nucléophile de l'eau sur ce carbone. Et puis ensuite, on va avoir clivage de cette liaison carbone-oxygène et création du carbonyle. Donc, la protonation se fait ici. C'est ce qu'on voit avec ce deutérium qui est inséré ici, donc ici, et l'eau, l'oxygène qui est ici, en fait, vient là. Voilà. Donc c'est des calculs, on va dire, justifient cette évolution. A priori, c'était quand même pas complètement anticipable au vu des réactivités. Le scope, il est toujours assez intéressant, on arrive à des dérivés assez originaux, il faut bien dire ce qui est, il n'y a pas grand-chose qui ressemblait à ça. Avant dans la littérature. Donc c'est évidemment ces squelettes, insertion d'azote, élimination d'azote. Bon, tout ça s'inscrit aussi dans une thématique dont j'avais un tout petit peu parlé l'année dernière. Je vous renvoie d'ailleurs au cours de l'année dernière, la numéro 3 du 19 mars 2025. Très bel article aussi. Dans le magazine Chemistry World de la Royal Society of Chemistry, vous voyez donc le principe de l'editing. Vous avez un squelette. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez par exemple transformer un carbone en un hétéroatome ou insérer un azote ici entre deux liaisons. Vous pouvez également couper une liaison. Vous pouvez effacer, voilà, enfin, il y a tous les outils, vous voyez, Tipex, colle, stylo, voilà. Donc c'est ça l'idée, c'est vraiment faire comme si un squelette d'une molécule était quelque chose sur lequel on pouvait travailler comme sur un dessin et puis avoir la molécule. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça, et puis vous allez voir que ça fait en fait souvent appel à de la chimie déjà bien établie, quoi. Donc revenons à Léonori et surtout Lévin. Lévin s'était intéressé à, par exemple, comment transformer cet arylnitrène en pyridine. Ce qui est, une bonne question d'examen, par exemple. Donc, si on donne ça en examen en M1 ou M2, ce serait intéressant de voir ce qui est proposé. Enfin, d'ailleurs, même pour nous, je pense que... Voilà, donc effectivement, donc déjà, alors comment faire les produits de départ? Globalement... On part de l'aniline, on passait par un diazonium et puis on va arriver à cette azoture ou partir d'un halogénure et puis faire une activation cuivre, un type couplage et puis on va introduire l'azoture. Et basé maintenant sur ce que l'on sait, on sait qu'on peut activer ça photochimiquement. Donc là, c'est Dering qui est mentionné. J'en ai parlé de cet article, mais il y en a d'autres. Et on sait qu'on peut arriver assez facilement, par exemple en piégeant par une amine, à ces dérivés-là. Donc ça, on l'a vu, ça a été utilisé par Léonori et par d'autres, par Huygens et ainsi de suite. Maintenant, toute la difficulté, c'est une fois qu'on est là, comment arriver à là? Parce qu'il y a quand même un petit peu de travail. Globalement, il faut que vous comprimiez votre cycle et que vous expulsiez un carbone. Et donc, l'élégance ou le truc, c'est d'utiliser en fait une amine un petit peu spéciale, qui a un autre centre nucléophile, cet alcool, qui est connu. Hein. Donc, on peut obtenir ce dérivé-là très facilement. Donc, l'amine est un meilleur nucléophile que l'alcool ici. Bon, ça, c'est OK. Ça paraît assez logique. Et ensuite, l'idée, c'est de trouver quelque chose qui va pouvoir être expulsé. Et il va, en fait, vouloir créer ce type d'intermédiaire parce qu'il est connu, il y a quelques précédents dans la littérature, que si vous chauffez quelque chose comme ça, vous pouvez, a priori, expulser le carbène correspondant, qu'on observe d'ailleurs comme sous-produit, parce qu'on observe à la fin l'oxydation ici, et donc on obtient ce carbamate cyclique. Donc, le réactif, là où c'est compliqué, c'est que le réactif qui a été utilisé pour faire ça, c'est pas du NBS, c'est en fait un analogue qui est beaucoup plus sélectif. Donc l'idée, c'est qu'évidemment, vous activiez cette position-là, a priori, vous faites le NBR, vous avez un charge de plus ici, l'alcool intervient comme nucléophile, et puis après, vous éliminez le bromure, et puis vous pouvez expulser. Mais avec le NBS classique, l'anion correspondant semble être trop nucléophile et fait une addition, et donc on ne peut pas avoir cette réactivité. Alors, là où ça peut être intéressant, c'est pour faire des transformations de molécules quand même très fonctionnalisées, qui en une ou deux étapes, vous pouvez arriver à quelque chose de fondamentalement différent. Si vous prenez par exemple cette testostérone, 182 euros le gramme, elle a été étudiée par Glaxo dans les années 90 avec la pyridine ici. Et pour faire ça, ils ont fait 11 étapes de synthèse avec un rendement global de inférieur à 1 étal, 1%. Mais si vous partez du phénol correspondant, qui est l'estrone et qui est globalement commercial, vous pourrez avoir quelque chose de très, très, beaucoup plus rapide vers cette pyridine en transformant votre phénol en azoture en 3 étapes, 10%, et on fait cette chimie-là, et on arrive à la pyridine. Donc globalement, en partant de molécules très fonctionnalisées, on peut arriver à quand même des changements conséquents, mais avec des étapes réduites. Et si par exemple, vous n'êtes pas très demandeur sur, on va dire, la sélectivité de la régiosélectivité de votre editing, si vous partez d'un dérivé comme ça, et que vous faites une insertion, une activation CH qui vous permet d'introduire un bépine sur votre noyau aromatique, vous allez obtenir les deux régioisomères. Ce qui est normal. Donc ça, c'est typiquement les réactions de Hartwig. Et vous les séparez, et ensuite, vous faites votre nitrène internalisation, et vous avez ces deux esters ici, séparés. Alors, les rendements globaux ne sont pas forcément exceptionnels, mais ce n'est pas si mal, 22-41. Vous avez quand même quelque chose qui est, a priori, dans un nouvel espace chimique. Voilà. Alors, ce qui était intéressant, c'est que au même moment, donc ça c'est 2023, vous voyez, mais juste avant, donc tout ça c'est à peu près contemporain quand même, c'est comment, par exemple, si on fait cette chimie sous l'oxygène, qu'est-ce qui va se passer ? On n'a pas du tout la même évolution. Hein, donc là, on va pas du tout former, enfin, on va faire internaliser un azote, mais on garde ce substituant ici, on a introduit une amine. Et on utilise dans ce cas-là comme photosensibilisateur pour faire de l'oxygène singulé, parce qu'en fait, on va passer par de l'oxygène singulé, ce photocatalyseur. Et là, en fait, si on revient au mécanisme, donc celui-là, on le connaît, hein, tout ça, on l'a déjà vu maintes et maintes fois, singulé, l'azirine, on arrive à ce substrat-là, mais maintenant, on a de l'oxygène singulé. Donc, quelle est la différence ? L'oxygène singulé, c'est un magnifique partenaire pour faire des disaldères, et c'est ce qu'il va faire avec ce diène là. Et ça, évidemment, vu le degré de fonctionnalisation du substrat, on va en fait fragmenter ça, qui va nous donner cet intermédiaire qui a priori fait un réarrangement 6π, et puis globalement on perd un OH-, on obtient cet intermédiaire qui ensuite élimine un fragment carboné, donc on perd un carbone. Donc c'est normal, on, on perd un carbone ici dû au fait qu'on a inséré l'azote. Et donc voilà, donc cet oxygène singulé se révèle intéressant. Et donc on arrive à faire ces aminopyrrolidines, alors avec des rendements là modestes. Et ce qui est intéressant de voir, c'est quand vous avez maintenant un substituant en méta. Donc vous voyez, en para, ça marche sans souci. En ortho, vous obtenez le produit sans trop de problèmes. Pareil ici, enfin, même si les rendements ne sont pas exceptionnels. Mais si vous avez par exemple deux substituants en méta, votre produit à la fin va perdre un méthyle. Ou celui-là, si vous partez de ce mélange-là, vous allez en fait avoir le produit avec de l'hydrogène ou le méthyle. Vous allez avoir un mélange des deux. Et c'est dû en fait à cette étape-là où globalement on expulse un des carbones du cycle. Et en fait, le carbone du cycle qui est perdu, c'est celui qui est en méta de l'azote du départ. Et donc c'est pour ça qu'on perd le substituant en méta. Donc c'est à la fois c'est une limitation, mais ça peut être aussi intéressant finalement. Quand on y pense, ça peut avoir aussi son intérêt. Donc vous voyez qu'on peut arriver à des choses assez sophistiquées. D'autres composés intéressants, en fait, on les a vus comme intermédiaires, mais est-ce qu'on peut les isoler? C'est les azyrines. Donc, c'est cycle A3 particulièrement tendu. Il se trouve qu'il y a des produits naturels de type azyrine qui ont été isolés de différents milieux biologiques. Et la meilleure façon de les faire, c'est de la littérature qui remonte un peu, c'est de faire des vinyles azotures. Vinyles azotures, c'est des partenaires, c'est... j'ai envie de dire, il ne faut pas avoir trop peur pour les manipuler. Et si vous les irradiez, ben, en fait, vous allez avoir l'azyrine avec extrusion de N2. Là, a priori, vous passez aussi par un nitrène 1. Comment faire ça? Vous prenez du iodo-azoture, qui doit être un réactif là aussi un petit peu touchy quand même. Et vous faites une élimination E2 et vous avez votre vinyle iodure. Azoture, pardon. Et voilà, donc c'était, oui, ce qui est intéressant, c'est de voir les précautions d'usage pour manipuler ça. Même là, les radiations est assez compliquée. Mais on peut réduire, on peut oxyder, on peut distiller à pression réduite. Il y avait quelque chose qui m'avait intéressé là-dedans, mais je ne me retrouve plus. Ouais, donc oui, quelqu'un me demandait comment ils analysaient les molécules à l'époque. Donc ça, c'est des travaux des années 60. Par exemple, on utilisait quand même beaucoup l'infrarouge. Là, il y avait déjà l'infrarouge. On fait un suivi de la disparition de la bande N3 par infrarouge. Et c'est comme ça qu'on arrive à suivre la réaction. Si vous faites ce genre de réaction dans le méthanol, comme solvant, vous allez avoir finalement une transformation qui est assez intéressante. Vous allez arriver à cette cétone alpha-aminée. Là aussi, c'est pas si simple que ça quand on y pense de faire ça de façon efficace. Et maintenant, si vous avez des systèmes avec pas mal de conjugaisons, bah là aussi, vous pouvez faire des radiations LED bleues et arriver à ces substrats assez facilement. Évidemment, ça, vous avez quelque chose qui est assez fonctionnalisé. Vous avez pas mal d'aminoacides et ainsi de suite. Donc ça a été publié assez récemment. Donc globalement, j'ai parlé un petit peu plus maintenant d'extrusion de N2 dans différents contextes. Alors déjà, les molécules qui peuvent vous conduire à l'élimination de N2, bah, ça va être des dérivés d'iazo ou d'iazyrine, qui ont été beaucoup utilisés en chimico-biologie, les diazènes, on va passer un petit peu de temps là-dessus, différentes sortes de diazènes, notamment les 1,1 ou les 1,2. Donc 1,2, vous avez, on va expulser le N2 comme ça, ou ici, donc on va former deux radicaux ici et ici. Le mécanisme, on va un petit peu parler, est-ce que c'est concerté ou pas, et ainsi de suite. Donc cette chimie des 10 radicaux, parce qu'on va faire des 10 radicaux, vous avez des revues assez intéressantes par AB et Kamrev, ou cette revue, j'avoue, dans Chinese Chemistry Letter, qui est vraiment hyper intéressante, très compacte, mais qui me donne toutes les applications en synthèse totale de produits naturels. Elle est vraiment très bien faite. Et il y avait un papier qui était assez intéressant, c'était de regarder l'expulsion de N2 de ce type de 1,1 diazène. Donc le cycle A5 diméthylé, le même squelette, mais maintenant on a des centres stérogènes contrôlés, hein, donc un seul énantiomère. Donc vous voyez tout de suite, ce qui va être intéressant de voir, c'est si on a une stéréospécificité dans les réactivités ou le cycle à 6. Alors là aussi, hein, comment faire des molécules comme ça? Donc vous voyez, ça c'est le schéma de synthèse. On commence par une réaction de Henry avec du tritombé, donc condition basique. Et puis ensuite, on réduit en nitroso et on condense sur ce carbonyle. On arrive à faire cette nitrone, qui est un excellent électrophile, qui va subir l'addition du Grignard. Puis, on réduit l'oxygène ici, le NO. Et globalement, on va arriver à cette pyrrolidine qu'on va séparer. Parce qu'en fait, aussi, on a le méso ou le composé chiral. Donc, première recristallisation. Puis ensuite, une fois qu'on a les deux énantiomères du composé chiral, on fait une résolution avec de l'acide tartrique et on obtient donc un seul énantiomère de celui-là qu'on va activer sous la forme NO. On réduit en hydrazine. Et puis, en utilisant ce réactif, on forme le dérivé diazo. Donc là aussi c'est pareil, j'ai mis la procédure expérimentale parce que globalement quand vous voyez la précision des étapes, c'est assez important, les mélanges de solvants, les colonnes, certaines qui sont faites à basse température, the concentrated 1,1 diazine solution were carefully placed on a column, donc tout est quand même très 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 minutieux quoi. Et on utilise beaucoup la basse température. Enfin, ouais, c'est du travail qui demande une certaine une bonne qualité expérimentale. Le PI ici, c'était Peter Dervan, hein, qui est très connu pour tout ce qu'il a fait en chimie biologique. Et Peter Schultz, qui était le PhD student, qui lui aussi, les anticorps catalytiques, et ainsi de suite, c'est lui, donc, c'est lui le graduate student. Et donc, ce qu'ils ont regardé, c'est que globalement, si on active ce dérivé-là, donc en fait, ils ont fait différents types de conditions, thermiques ou photochimiques. Photochimiques directes, à moins 78, ou avec un sensibilisateur, qui est dans ce cas-là la Zulène. Et ce que vous voyez, c'est que globalement, en thermique, vous avez toujours les mêmes répartitions de produits. Donc, vous avez des produits de fragmentation, des produits de recombinaison, donc a priori diradical qui se recombine, des produits de disputation ici, donc en fait, on transite par ce diradical qui a pas mal de possibilités. Je reviendrai un petit peu plus dans le détail là-dessus, mais... Donc... Donc il peut recombiner, mais il peut aussi, par exemple, arracher un hydrogène ici, ce qui va conduire au produit hydrogéné ici, à la double liaison là. Ou on peut aussi avoir une difragmentation, hein, c'est-à-dire que ça peut fractionner. Et donc c'est ce qui vous conduit à votre produit d'ailleurs principal. Bref, donc il y a pas mal d'évolutions possibles à partir de ce diradical. Ce qui est intéressant, c'est de voir que bon, les conditions thermiques en variant la température, vous ne voyez pas grand-chose. La photochimie directe est très proche de l'activation thermique, hein, il n'y a pas beaucoup de variations. Par contre, quand vous sensibilisez, vous augmentez un petit peu ces produits 4 de fragmentation, donc comme si on favorisait avec un radical, probablement diradical triplé, le processus de fragmentation. Et il a comparé avec ce système-là, qui avait été fait, j'ai cité le papier un petit peu, et globalement les distributions sont assez semblables, ce qui est assez rigolo, et eux aussi avaient observé un effet en fait de la sensibilisation sur la distribution des produits. Le cycle A6 va donner des choses qui sont très voisines, même type de produit, pas beaucoup de différence en fait entre la photochimie ici et la thermique. Donc là où c'était intéressant, et la question qui se posait, c'était maintenant, comment vous allez respecter l'information stéréochimique ici. Donc là, quand vous irradiez de façon thermique, le produit principal, c'est beaucoup la fragmentation. Mais vous obtenez aussi ce produit-là, 15. Le produit où vous avez. Là, j'ai dû perdre par contre un méthyle, mais globalement, vous obtenez aussi les produits de dismutation. Et vous obtenez les deux isomères possibles, en fait, ici. Ce qui est rigolo, c'est que globalement, si vous faites cette isomérisation en conditions thermiques, vous avez une excellente rétention de configuration, donc vous respectez complètement vos centres stéréogènes. Par irradiation directe aussi, mais si vous le faites en sensibilisation, vous commencez à avoir une certaine érosion. Donc globalement, le passage par triplé conduit à perdre l'information stéréochimique ici, et c'est exactement ce qu'avaient également Bartlett et Porter avec ce système. Donc le passage a priori par un triplé conduit à une érosion stéréochimique. Donc comment expliquer ça? Vous irradiez ça, vous passez par l'état singulé. L'état singulé ici va expulser le N2. Vous avez très peu de rotation et vous obtenez principalement la fermeture ou des clivages. Si vous avez la rotation, vous obtenez ce produit, mais dans ces conditions-là, vous l'avez assez peu. Par contre, si vous avez le sensibilisateur, vous faites l'état triplé ici, que vous pourriez obtenir éventuellement par creusement intersystème du singulier ici. Mais disons que là, vous l'avez. Qui va conduire au même produit que... Alors, il peut revenir vers l'état singulé. Il va revenir vers l'état singulé pour former les produits ici. Mais il peut y avoir la rotation. Et cette rotation-là est plus importante et plus importante dans le cas de l'état triplé et donc conduit à une certaine érosion. C'est-à-dire que vous n'obtenez pas que ce produit-là, vous en obtenez un petit peu plus de celui-là. Donc, globalement, ce qui était intéressant de voir, c'est que la photodécomposition directe où vous vous sensibilisez donne des produits soit d'évolution intra ou aussi inter, et qu'il y a quand même une corrélation du spin avec l'intégrité stéréochimique. Et donc, globalement, ça veut dire aussi que la vitesse de croisement intersystème est beaucoup plus faible que celle d'expulsion du diazote. Voilà, donc je reviendrai un petit peu sur ces expulsions d'azote d'une autre façon. Alors, je vous avais parlé un tout petit peu de ça, et en fait c'est un concept qui était connu, c'est d'utiliser des amides où vous avez en fait deux groupements potentiellement mésomères donneurs. Et globalement, on a un phénomène ici de stabilisation type effet anomérique, dédoublé ici dans les liaisons sigma étoile, donc NX, par les deux groupements. Et ça conduit à une réactivité très spécifique, très particulière de ce type d'amide, qui va réagir de façon nucléophile assez forte avec une amine secondaire. Et en fait, vous pouvez maintenant avoir un réarrangement qui vous conduit à ce type de nitrène qui perd du N2 et vous formez le biradical. Ce biradical, quand il s'agit d'un benzylique, il va se recombiner très facilement. Mais si vous utilisez ça sur un système cyclique, vous pouvez créer un cycle. Donc, vous pouvez créer par exemple un cyclopropane, vous pouvez éliminer ici cet amide, vous pouvez le faire réagir et vous allez obtenir ce cyclopropane avec une bonne rétention, une totale d'ailleurs stéréospécificité. C'est-à-dire que le système trans ici vous donne le système trans et là le système cis vous donne le système cis, avec un très très bon rendement. Ça c'était relativement intéressant, même si sa stéréospécificité est assez peu décrite, et ça a conduit à Anton Chic à lui regarder un système relativement simple où si vous partez de ce réactif, donc de cet aminocarboxylate ammonium en présence de PIDA, vous pouvez engendrer une espèce électrophile qui est comme un carbène, on va dire, électrophilique. Et si vous avez des pyrrolidines, vous allez pouvoir faire de la contraction de ces pyrrolidines pour obtenir les cyclobutanes. Donc vous allez dans ce cas-là expulser le N2. Et ce qui est très intéressant, c'est que typiquement, vous voyez avec l'exemple, là, c'est de la table d'optimisation. Bon, il se trouve que le PIDA marche, mais ce réactif-là, le HTIB aussi peut être utilisé. Hein, c'est le même principe. Hein, c'est l'idée vraiment de former in situ un iodonitrène. Et vous allez pouvoir obtenir ces dérivés-là avec des bons rendements, mais surtout une totale rétention de la configuration. Alors, comment faire d'ailleurs ? Parce que ce qui est intéressant, cette chimie n'est intéressante que si l'accès au produit de départ est lui-même relativement facile. Et là, les produits de départ, en fait, il suffit de prendre un système stérile de ce type-là, cette imine, et en présence globalement de base, vous arrivez à faire ces pyrrolidines tétra-substituées de façon complètement diastéro-sélective. Donc là, on voit un petit peu le scope, hein, différents types de substrat pour arriver à ces cyclobutanes esters. On arrive à des substrats quand même qui sont particulièrement intéressants. On peut même avoir cet arrangement, le faire sur des systèmes polycycliques. On a de la mémoire de chiralité, hein, c'est-à-dire que globalement, ce que vous voyez ici, c'est que si on part d'un seul diastère isomère, mais d'un seul énantiomère, on garde toute l'information stéréochimique. Hein, donc, on a toujours tendance à croire que des diradicaux, dès qu'on les forme, vont avoir beaucoup de possibilités d'avoir des rotations, mais ces diradicaux singuliers, en fait, réagissent très rapidement. Hein, ils font une formation de liaison carbone très très rapide, et ça donne donc ces cyclobutanes avec une très bonne stéréorétention. Donc le principe, c'est ça, c'est on forme ce diazène intermédiaire qui fragmente, et on obtient ce dérivé-là. Ces produits de fragmentation, ils les voient très très peu, mais ils en ont eu quelques-uns. Ça correspond au produit qu'on a vu tout à l'heure avec le système de Dervan. Ça, il n'est jamais observé, et donc globalement, c'est complètement stéréospécifique. Donc ça change un petit peu aussi l'idée de faire comment faire des cyclobutanes de façon complètement stéréocontrôlée. Passer par une pyrrolidine était a priori quand même pas complètement évident initialement. Alors maintenant, qu'en est-il des 1,2 diazènes ? En fait, les 1,2 diazènes, eux, ils ont été presque beaucoup plus utilisés. Ils ont une histoire qui est bien plus longue. Notamment, ces travaux de Dodd, Berson, ainsi de suite, avaient montré que ça, si vous irradiez, vous avez formé un diradical ici qui est a priori triplé. Ce qui a été confirmé par Berson, mais lui, en prenant ces systèmes-là, il observe un singulé, lui et d'autres, parce qu'il y a eu beaucoup de chimistes physiciens derrière, qui peuvent évoluer vers le triplé et qui vont s'additionner sur des oléfines appauvries en électrons, parce qu'en fait, ce diradical, c'est des radicaux qui sont nucléophiles, donc ils s'additionnent assez facilement sur des oléfines appauvries en électrons, et on arrive tout de suite à des composés en partant de quelque chose finalement d'assez peu fonctionnalisé à quelque chose qui lui l'est beaucoup plus. Donc là, il y a une revue par Dan Little là, qui est vraiment très intéressante et qui parle de toute cette chimie. Alors, vous pouvez vous poser la question, comment faire ces produits de départ ? Parce que finalement, là aussi, je me posais quand même pas mal cette question, est-ce que c'est comment introduire finalement un N2 sur un substrat carboné comme ça ? C'est pas non plus complètement évident. Et l'approche la plus simple, c'est d'abord faire un fulvène, alors cyclopentadiène sur un aldéhyde, bon ça va, c'est pas trop compliqué, surtout que le cyclopentadiène est très acide, donc faire l'anion, ça va. Donc on a le fulvène, et le fulvène, on peut l'utiliser, on a un aldiène hautement réactif qui va pouvoir faire une réaction de disaldère avec ces diazènes ici. On réduit cette double liaison, enfin l'hydrogène, ça marche visiblement assez bien, c'est toujours très sélectif vis-à-vis de celle-là. A priori, il n'y a pas de. J'ai pas vu d'exemple où il parle de compétition. Et puis ensuite, c'est comment enlever les esters et introduire la fameuse double liaison. Et là, il y a eu plusieurs protocoles selon le groupement ester. Soit on fait une saponification, décarboxylation, puis on oxyde. Alors là, c'est un oxyde de mercure, mais ça peut être ça peut être du fer-3, par exemple, et on va introduire cette double liaison. Ou avec cet ester ici, on peut faire une réduction avec du zinc ou l'électrochimie et on va obtenir ces dérivés-là. Et donc, là où ça devient, j'ai envie de dire, assez élégant, c'est que, évidemment, si vous avez un aldéhyde qui est lui-même très fonctionnalisé, bah, vous pouvez, on va dire, chuter votre N2, former le diradical, qui va pouvoir ensuite s'additionner sur cette double liaison, et vous pouvez obtenir très facilement un trichinane linéaire avec très bon rendement. Donc ça, c'est quelque chose qui a été abondamment utilisé dans la synthèse de polyquinane, notamment, mais qui continue à être très utilisé. Deux exemples, un par Wender, dans ce Science 2008, où globalement, il arrive à faire ce diazo ici, par une assez belle combinaison en passant par l'hydrazine et puis ensuite une condensation pour faire cet hétérocycle ici, qui l'oxyde, et en irradiant, l'élimination de ce diazo lui permet d'introduire ce cyclopropane. Donc c'est aussi de voir, on peut faire un cyclobutane, mais on peut aussi donc faire, à partir de ces 10 radicaux, un cyclopropane. Et là, si vous êtes intéressé par cet article, alors c'est Moussa Vaghi, le PI, mais il n'y a qu'une seule étudiante. Et quand on voit les molécules qui ont été faites, parce qu'il y a 4-5 synthèses totales dans cet article, c'est un full paper. Et quand on voit la complexité des molécules, donc en fait, il arrive à arriver à faire ce triazo. Et en l'irradiant, on va d'abord cliver ici, sélectivement, puis on change d'irradiation, et ensuite on va cliver ici, et donc évidemment faire les liaisons correspondantes. Et donc ce tétramère, bah, après, en quelques étapes, ça vous donne par exemple cette quadrigémine C, mais il fait d'autres produits. Donc, vous voyez le travail et l'inventivité de la chimie qui est derrière. Je n'ai pas parlé de la synthèse des précurseurs diazo, mais c'est très très élégant. En fait, ici, cet azote, ici, il est introduit par un nitrène de rhodium, type ce qu'on a vu de Philippe Daumont la semaine dernière. Donc, on fait une insertion ici CH de ce sulfamate, par exemple. Donc voilà. Puisqu'on est dans les 10 radicaux, une famille de diradicaux qui est très intéressante, et là malheureusement d'abord je vais m'arrêter bientôt parce que le temps coule, et puis mais il y aurait beaucoup à dire. Donc c'est le fameux réarrangement de Bergman. Donc Bergman est professeur à Berkeley, émérite. Il a eu le prix Wolf en 2017, pas pour ce réarrangement, même si il est très très connu, mais pour la découverte de l'activation CH en catalyse homogène. Et la raison pour laquelle je mets ça, c'est que prix Wolf, souvent, c'est un peu l'antichambre du Nobel. Pas toujours, on a des contre-exemples que je ne citerai pas, mais il y en a quand même malheureusement un certain nombre. Mais s'il y a un prix Nobel un jour sur l'activation CH, a priori, il y aura Bergman. Et donc, dans cet article JAX, ce qu'il montre, c'est qu'en fait, si vous partez de ce système ND-IN, et que vous le chauffez à 300 degrés, vous arrivez à en fait ce nouveau ND-IN où vos deutériums sont ici. Donc vous avez un équilibre entre les deux. Et a priori, ce qu'il dit, c'est que vous êtes passé par ce parrain benzine dont il écrit différentes structures limites et conclut que celle-ci est la plus, celle qui a le plus de sens. C'est un article qui se concentre principalement sur ce système. Mais tout de suite, alors quand je dis tout de suite, c'est faux d'ailleurs. C'est resté un article qui a été dans la littérature, mais où les gens ont vu que c'était rigolo, mais pas tant que ça. Donc ça, 1972. Et la raison pour laquelle il y a eu un regain d'intérêt va être assez intéressant. Voilà une autre application. Hein. Donc à des systèmes comme ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir une double liaison d'ailleurs, vous pouvez avoir un système aromatique, et dans ce cas-là, vous allez pouvoir faire ce tétracycle en une seule étape. Et dans ce cas-là, vous allez utiliser comme source de donation d'hydrogène ce cyclohexadiène. Donc c'est une réaction dont on va voir qu'elle peut être photochimique, mais c'est surtout cette relevance au produit naturel. Donc 1972, et est paru dans les années 80, alors c'est vrai que je n'ai pas mis les dates initiales de découverte, mais son ont été publiées dans les années 80 une série de produits naturels isolés qui ont tous un motif endine. Donc ici, donc là c'est dans des cycladis, donc cycladis aussi ici, donc il y a les calicamycines et les hespéramycines, cette dynamycine ici, ou cette néocarcinostatine, donc qui est un cyclaneuf. Alors déjà, ça d'ailleurs ce n'est qu'une partie de la molécule, parce qu'en fait c'est, il y a un noyau protéine accroché à ce chromophore. Et ces molécules ont des activités antitumorales, mais phénoménales. Vraiment phénoménales. Mais aussi d'une toxicité phénoménale. Et en fait, la raison, c'est que comment elles réagissent? Ben, globalement, si on prend la calicamycine, le principe est... Donc voilà le système endine de la calicamycine. C'est que globalement, donc en milieu biologique, on a quand même pas mal de nucléophiles. Et un nucléophile va en fait taper ici et faire partir ce SSCH3-. Enfin, ça va être un groupement partant. Et on va former en fait un thiolate. Donc en fait, on forme ici, oui, on attaque ici et c'est le thiolate qui est le groupe partant, pardon. Et ce thiolate va faire une addition de Michael. Et on forme ce nouveau composé polycyclique. Et il y a une chose qui est très importante, c'est qu'on est parti d'un système où la distance ici entre les deux carbones des IN est de 3,35, mais ici il est de 3,16. Et ce simple rapprochement des deux carbones, hein, on gagne 0,2 angström, va déclencher la fameuse réarrangement de Bergman, former ce diradical qui lui est ce qu'on appelle une warhead. Une ogive, parce qu'en fait, ça, c'est hautement réactif. Ça réagit avec votre ADN, ça arrache des hydrogènes, hein, ça fait de l'abstraction d'hydrogène, et vous êtes en miniature de l'oxygène. Donc ensuite, vous oxydez votre ADN et en fait, vous défaites votre ADN. Et pourquoi ça marche bien? C'est que généralement, vous avez une portion sucre, et c'est votre portion sucre qui s'inscrit dans le petit sillon de l'ADN, et donc vous avez une proximité. Donc c'est très bien placé pour faire beaucoup de dommages. Donc, et toutes ces molécules marchent comme ça, n'ont pas forcément le même mode d'activation. Ici, c'est par le sulfure, celle-là et celle-là. Ici, c'est différent. En fait, il y a une première réduction ici qui va faire en sorte qu'on va ouvrir l'époxyde et ça va rapprocher en fait les bras. Et là également, l'attaque ici se fait par une oxydation ici. C'est un mécanisme différent, mais c'est le même principe. On passe d'un système où le DIN ne réagissait pas. On rapproche les deux carbones et ça réagit. Et si vous êtes intéressé par cette chimie, je vais me dépêcher, cet article de Nicolaou est vraiment intéressant parce que beaucoup de gens se sont dit on va faire des systèmes plus simples et on va les étudier. Donc voilà tous les endines qui ont été synthétisés de ce type-là. Ça, c'est leur numéro. Ça, c'est la distance entre les deux carbones des acétylènes. Et c'est leur stabilité. Et quand vous avez des grandes distances, bah évidemment, votre système il va être stable à température ambiante. Mais quand vous avez des distances qui deviennent plus courtes, bah, en fait, vous avez une durée de vie qui est beaucoup plus faible et vous allez avoir le réarrangement de Bergman. Et par exemple, 284, la structure 21A, donc 21A, c'est celle-là avec A, un seul carbone. Bah celle-là, on n'arrive pas à la faire, elle réagit tout de suite. Quoi. On arrive à l'isoler ici, mais une fois qu'on a le endine, on n'arrive pas. Et ce qui est intéressant, c'est cette étape pour faire cette double liaison, parce qu'en fait, on va utiliser une réaction de Ramberg-Backlund. On fait un anion ici qui expulse le chlore, donc on passe par un cycle à 3 très tendu qui expulse du SO2 et introduit la double liaison. Et là, c'est deux types de systèmes qui résultent d'un couplage pinacolique. Et là aussi, ils ont des distances variables et vont pouvoir réagir différemment. Donc la question, c'était est-ce qu'on peut faire du photo-Bergman? J'irai rapidement là-dessus et la réponse est oui. Donc en irradiant, par exemple, ce produit-là dans l'isopropanol, vous allez obtenir ce composé bicyclique qui suggère que vous êtes bien passé par le biradical. qui, dans ce cas-là, a probablement été hydrogéné par l'isopropanol. Donc les hydrogènes ici viennent de l'isopropanol. Si vous le faites avec des groupements alkyles, vous avez le produit ici, mais vous avez d'autres types de produits. C'est un petit peu moins efficace avec un groupement alkyle ici qu'avec un groupement phényl. Donc ça, 98. Et puis, la littérature. Que disait la littérature ? Incroyable. Un précédent complètement oublié. Parce qu'en fait, ce réarrangement de Bergman, il était même connu photochimiquement avant l'article de Bergman. Mais, évidemment, bien caché dans la littérature. Donc, qui est-ce qu'il cite ? C'est en fait un article d'Alain Bouguine que je vais juste vous montrer après. Jusqu'à ce jour, j'ai trouvé que 5 citations de cet article, hein, donc vraiment complètement oublié. Et alors, moi, il m'a d'autant plus intéressé que... c'est pas Ingleton, d'ailleurs, je me suis trompé sur le nom. Mais par contre, la référence, là, est bonne. En fait, ce qu'ils voulaient, eux, c'était faire le radical alcynyl et le piéger par le phényl. Parce qu'ils renvoient à un autre article de Karache où il y a des radicaux alcynyl. Nous-mêmes n'avons pas vu d'ailleurs, totalement un ingéventeux des années 60, complètement passé à l'oubli. Donc, c'est ça qu'ils voulaient faire, et quand ils font la manip, ils ont bien 40% du produit attendu, mais ils ont ces produits bicycliques où globalement, ils ont les 2 iodes ici, ou 4 iodes, ou un phényl, un hydrogène, un iode. Donc lui, c'est vraiment le Bergman, hein, pas de problème. Les 4 iodes, ils expliquent. Et ils les disent, bah non, bah en fait, on a passé par le radical ici qui a arraché un iode quelque part, ou qui a arraché un hydrogène, ou qui a réagi avec le benzène. Donc vraiment, superbe trouvaille. A priori, ils n'ont même pas continué sur le travail. Et donc, pourquoi la photoactivation du Bergman peut être intéressante, et donc c'est aussi pour introduire notre conférence, c'est que maintenant, si vous savez déclencher ce mécanisme de formation du biradical au bon endroit, non pas partout dans votre organisme, mais si par une activation photochimique type near infrared, vous pouvez donc vraiment l'engendrer, mais on peut avoir du coup peut-être des drogues d'une puissance phénoménale. Et donc il y a cette revue qui est vraiment très bien faite, qui parle de ça, et je vois quand même que c'est un domaine qui est quand même assez actif, parce qu'il y a quand même pas mal de papiers qui sortent avec des molécules assez élaborées et donc qui globalement suggèrent qu'on peut vraiment avoir des belles avancées donc dans le contrôle spatial et temporel pour la délivrance de dits radical. Voilà, je vous remercie de votre attention, je m'arrête là.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.